Radio Campus, il est 6h.
L'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, est une association française reconnue d'utilité publique depuis 2005, dont le but est de permettre à des personnes qui n'ont pas d'accès au système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise grâce au microcrédit accompagné. Rencontre avec Memouna de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France.
L'association a été créée par Marianne Oac qui avait l'idée en fait que chacun peut entreprendre en fait même sans capital. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément accès à un crédit bancaire classique, nous en fait au niveau de l'ADI on est le dernier recours, on suit que ça soit les personnes au RSA, fichier Banque de France ou demandeur d'emploi en fait, peu importe la situation de la personne à partir du moment où elle a une compétence ou un talent, en fait elle peut venir s'adresser à l'ADI et on sera là en fait pour l'accompagner, que ça soit sur du financement ou de l'accompagnement.
Quel est le profil des personnes que vous recevez ?
Alors comme j'ai expliqué, un profil du coup assez, assez fragile. On a des personnes de tout horizon, hein, mais c'est des personnes qui sont assez fragilisées au niveau des finances et dont personne ne veut forcément les suivre. Et en fait, l'ADI est une porte ouverte pour ces personnes-là, en fait, dont personne ne veut aider.
Donc une personne qui vient avec une première idée d'un projet,
oui.
Il peut venir.
Il peut venir. Il peut venir. Ensuite, on travaille en fait avec une équipe intégrée, donc des bénévoles. On est aussi en lien avec du coup les partenaires comme Positive, avec qui on travaille énormément, qui font uniquement de l'accompagnement. Et à partir du moment où en fait la personne elle a une idée, et ben on est là en fait pour structurer son projet, pour soit voir ce qu'il y a à compléter avec les bénévoles ou avec les partenaires, et ensuite faire la partie financement avec elle. Et c'est pas des personnes en fait qu'on lâche dans la nature pendant 3 ans, on les suit sur leur projet. On a pas mal d'ateliers qui sont mis en place aussi par rapport à ça, qui peuvent les aider, comme comment chiffrer son projet, comment trouver des clients, des ateliers sur la confiance en soi. Et en fait, ils peuvent bénéficier de tout ça et gratuitement. Ils ont vraiment, on les suit réellement. En fait, c'est un réel accompagnement.
Et qui anime ces ateliers ?
Alors, nos bénévoles les animent. On travaille avec des bénévoles. Nous, les conseillers, on peut les animer aussi si on n'a pas assez de bénévoles. Et puis voilà. Et ensuite, c'est des relations assez, parfois partenariales où là, on va travailler en fait avec d'autres structures comme les Carrefours, comme Positive, etc. où on pourra se mettre en lien pour pouvoir créer un atelier qui servira du moins pour les porteurs de projets.
Quand vous dites des bénévoles, donc c'est des gens qui sont formés ?
C'est des gens qui sont formés ou c'est des personnes qui ont déjà en fait des compétences dans le métier. Par exemple, là, j'ai un événement au centre social de l'ALMA durant la campagne de l'ADI avec une bénévole qui fait déjà ça en fait à son compte. Elle travaille beaucoup sur tout ce qui est confiance en soi. Elle est coach et donc en fait elle sera là tout simplement pour les personnes qui seront présentes, donc les porteurs de projets, pour animer en fait cet atelier. Mais ce sont des bénévoles souvent retraités qui ont déjà en fait les compétences requises dans le domaine.
Comment est-ce que vous voulez sélectionner vos bénévoles?
Alors ils peuvent postuler directement via le site internet, donc adi.org, ou alors nous, dans certains événements, on peut aller à leur rencontre, comme il y avait la journée du bénévolat à la maison des associations où l'ADI était présent. Et donc à ce moment-là, on informe que nous, on a toujours besoin de bénévoles. Il y a pas mal de bouche à oreille aussi. Et ensuite, c'est des entretiens qui sont faits avec eux. Ils nous voient sur le terrain, ils nous voient sur nos différentes missions également. Et ensuite, ils se positionnent sur ce qui peuvent les convenir, parce qu'en fait, c'est aussi un choix. Hein. Ce sont pas des salariés, ce sont des bénévoles. Il faut que ce soit une mission qui les anime aussi. Et puis, ça reste des passions. Donc, sur le volet, en fait, sur lequel ils se sentent le plus à l'aise, c'est là-dessus, en fait, sur lequel ils vont.
Oui, parce qu'il faut avoir quand même certaines compétences.
Exactement.
pour accompagner, c'est pas donné à tout le monde.
Tout à fait. Mais le champ, il est tellement large, en fait, pour pouvoir accompagner un porteur de projet, que ça soit, sur tout ce qui est la comptabilité, que ça soit sur les déclarations, que ça soit sur l'assurance. Ça peut être aussi pour restructurer le projet, pour pouvoir trouver un local, comment on fait, etc. En fait, finalement, c'est tellement large qu'on trouve toujours, en fait, des bénévoles qui ont une certaine compétence pour pouvoir accompagner au mieux.
Parce que comme vous nous parliez du public très fragile que vous accueillez,
oui.
Il faut aussi avoir un savoir-être.
Exactement, oui.
Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde, on va dire.
Non, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'au niveau, même au niveau des salariés de l'ADI, on est embauché aussi dans ce sens, en fait. Une personne qui n'a pas forcément d'empathie, de la patience, qui n'est pas forcément ouvert d'esprit ou qui n'a pas l'habitude de travailler avec les communautés, etc., bon, bah, c'est pas forcément le profil qui sera recherché au niveau de l'ADI. On a besoin, en fait, justement, d'avoir cette ouverture d'esprit pour tous. Et je pense qu'on est tous dans cette même dynamique au niveau de l'ADI, quoi qu'il arrive.
Memouna, de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France. Quels sont les principaux freins que vous constatez quand les personnes viennent vous voir ? Qu'est-ce qui les freine le plus ?
Qu'est-ce qui les freine le plus ?
Oui, ou de quoi ont-ils peur ?
Je pense que il y en a beaucoup qui ont réellement peur de se lancer. Ils n'ont pas réellement peur de se lancer, ils ont plutôt peur d'échouer. Et ensuite, il y a... Je pense que c'est des peurs qui sont transmises. Je pense pas que c'est réellement leur peur directement, mais souvent c'est lié à l'entourage, quand il y a des enfants aussi, etc. Et donc du coup c'est surtout cette angoisse au niveau financier de se dire comment je vais pouvoir faire si ça fonctionne pas, etc. Je vais me retrouver peut-être avec un crédit ou quoi que ce soit. Mais en fait, encore une fois, au niveau de l'ADI, tout est calculé. C'est-à-dire que nous, une personne qui nous demande de 10 000 euros pour un projet, si le projet n'a pas forcément besoin, en fait, de 10 000 euros pour commencer, qu'on peut commencer avec bien moins que 10 000 euros, et qu'en plus de ça, la capacité de remboursement ne le permet pas, on va pas aller. On est là aussi pour pouvoir raisonner un petit peu les personnes quand ils voient un peu trop grand, et puis de se dire, bon, on peut commencer petit. Et puis ensuite, on va essayer de voir un peu plus grand une fois que ça ira un peu, quand ce sera petit déjà. Mais on les met pas en difficulté. On est là pour les aider, justement, mais sans les mettre en difficulté pour autant. Et donc, c'est aussi de notre rôle de leur dire quand c'est OK et quand ça ne l'est pas, et quand il faut revoir le financement à la baisse, ou alors tout simplement te dire, bon, là, un local, ça va être très coûteux, mais on peut peut-être commencer l'activité à la maison. Et donc, à ce moment-là, il y a toujours des portes, en fait, qui s'ouvrent quand on y réfléchit bien. Donc, je dirais pas... Je pense que tout le monde arrive quand même avec une certaine appréhension, et puis aussi le fait de pas forcément se sentir légitime. Je pense que quand on a souvent des portes qui sont fermées et que on vient, on vient aussi avec la peur de se dire ah, mais on va me refuser une fois de plus. Mais au niveau de l'ADI, il y a jamais de non définitif. Ce qu'on demandera, c'est soit que la personne elle essaye un petit peu plus de se mettre dans le verre et puis ensuite de revenir parce que là elle est trop en difficulté, et c'est pas possible, ou alors de commencer petit pour ensuite pouvoir voir plus grand. Mais il n'y a pas de non définitif, en fait, au niveau de l'ADI. Voilà.
Dans les projets que vous avez accompagnés, quels sont ceux qui vous sont restés en mémoire ?
Alors, en fait, il y a tellement de projets différents. Moi, c'est pas forcément, en fait, le projet, je dirais, plus que c'est par rapport à la personne, en fait, qu'on a en face de nous, parce que le métier, il est très humain, en fait, au final. Et parfois, en fait, ça peut être un métier qui peut paraître banal, mais quand on connaît toute l'histoire, en fait, qu'il y a derrière la personne, ben moi, c'est plutôt ça, en fait, qui va me marquer. Là, par exemple, j'ai une dame, en fait, que je suis, qui vient des Dom-Tom. Elle a 9 enfants et elle est arrivée ici pour pouvoir leur offrir une vie meilleure. Et donc, elle a commencé par ouvrir un restaurant avec son mari. Et c'était compliqué pour ses filles de pouvoir trouver un emploi, etc. Et donc, elle a décidé, en fait, d'ouvrir une boutique où là-dessus, où elle va faire tout ce qui est vêtements traditionnels, en fait, etc. Et se partager le local avec ses filles pour qu'il y en a une qui fasse les ongles, il y en a une qui fait tout ce qui est coiffure, etc. Et donc, du coup, c'est devenu vraiment un projet familial. Mais quand on connaît réellement l'histoire qu'il y a derrière et les difficultés que cette dame, elle a eues pour pouvoir en arriver là, les sacrifices qu'elle a fait, et avec toute la charge en plus de ça qu'elle a derrière, de se dire « j'ai fait tout ça pour pouvoir, en fait, pour ma famille, en fait, tout simplement », moi, c'est plutôt ça qui va me marquer, en fait. Je pense qu'on peut faire le métier le plus extraordinaire du monde. S'il n'y a pas une histoire derrière, ça va pas valoir autant qu'une petite activité sur laquelle il y a une énorme histoire qui va derrière.
Oui, c'est le parcours.
Exactement.
C'est la progression de la personne.
C'est ça.
À travers son projet, ce qu'elle a pu découvrir.
Oui. Et puis aussi leur détermination et la façon qu'ils ont en fait vraiment d'être capables en fait de se relever et d'aller toujours plus loin. C'est surtout ça.
Et ce qui est important aussi, c'est de retrouver la confiance en soi.
C'est ça. Ça, c'est vraiment la base de tout. D'où les ateliers confiance en soi, du coup.
Et qui anime cet atelier ?
Alors là, c'est Christine qui est notre bénévole, qui est également du coup à son compte en tant que coach. Et en fait, il y a pas mal de dames qui font de la cuisine, ce genre de choses en fait au centre social de l'Alma. Et on s'est dit que ça serait pas mal en fait de faire un événement avec elles pour leur donner confiance et pourquoi pas créer leur activité en fait à elles-mêmes. Là, pour le moment, elles sont dans une coopérative, mais si ça se trouve, il y en a certaines d'entre elles qui voudraient développer leur activité, mais qui n'ont pas assez confiance, qui se mettent des barrières là-dessus, et l'entourage qui fait que « mais c'est risqué », etc. Et finalement, en fait, à travers les peurs de tout le monde, ben, on finit par avoir peur nous-mêmes. Alors que quand on reprend confiance, ben, on se dit « mais finalement, on peut peut-être essayer ».
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été accompagnées dans votre association et qui reviennent en tant que bénévoles ?
Alors, je pense qu'il y en a, oui. Maintenant, j'en ai pas en tête, mais il me semble qu'il y en a, oui. En sachant que nous, l'a dit, on est situé un petit peu partout en France. Et donc, oui, il y en a, mais personnellement, moi, j'en connais pas.
Peut-être nous dire si jamais on a besoin d'informations ou est-ce qu'on peut trouver...
Oui, si jamais vous avez besoin d'informations, vous pouvez vous connecter sur notre site adie.org, sur lequel vous pouvez prendre directement rendez-vous en ligne. Vous pouvez également contacter du coup notre plateforme nationale au 09 69 328 110. Vous serez mis en fait en contact avec l'agence la plus proche de chez vous, en sachant que nous sommes situés un peu partout dans les Hauts-de-France.
Est-ce que vous pouvez nous dire si vous intervenez qu'à Roubaix ou est-ce que vous intervenez dans la région des Hauts-de-France ?
Alors, on intervient dans la région des Hauts-de-France, donc on a plusieurs agences, dont du coup Roubaix, Lille, Valenciennes. On intervient aussi sur Dunkerque, Calais, Lens, Arras. En tout cas, près de chez vous, dans les Hauts-de-France, vous avez toujours une agence qui est disponible au plus proche.
Nous étions avec Memouna, de l'Association pour le droit à l'initiative économique, ADI, des Hauts-de-France. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM ou sur la toile www.campuslille.com.
C'était un beau matin pour Gina Pilar et JP, la brosse en Mustang sur la main, main dans la main vers le voyage de noces. JP était bien content parce qu'il sait bien que quand il se donne la peine, il fait les choses en grand, il a réservé au camping Saint-Germain. Là-bas, au beau milieu du festival country, il y avait une tombola pis du bal d'arrêt qui jouait dans le plancher. On parquait le roulotte sur un petit terrain pas loin du casse-croûte. C'était pas un mauvais spot parce qu'il entendait presque pas l'autoroute.
chaque frite qu'ils se sont payés une petite fuite. Dans les broussailles du camping Saint-Germain, où le temps s'est figé des années 70. Ils s'étonnent sur le coin dans Dogon en Beden, en écoutant Elvis ben à côté sur le bumper. La Laurent, c'est un cooler. Le lendemain, J.P. voulait encore impressionner sa douce. Check bien ça qui a dit, m'en va aller gagner un beau nono. Au jeu du gonaplon, il s'est fait escroquer par un forain. Maudit qui se trouvait qu'on s'en piassait cher pour un petit toutou de chien.
Ouais, sacré forain, sûrement des gars de pause carnaval.
Et il a oublié ça parce que soit il avait l'occasion de se faire en gagnant le championnat du tournoi de pétanque annuel du maire. Mais il s'est effondré en finale contre un gauche feu grichou qui n'avait pas de dentier et qui portait un beau chandail de loup. Le réconforter, sa belle Gina l'entraîner. Dans les broussailles du camping Saint-Germain, où le temps s'est figé les années 70. Il s'est donc dans la couenne en gougoune en bédoune, en écoutant Elvis sur un vieux tape à cassette avec la Laurentide tablette. De quelque temps, Gina a commencé à prendre un coup en voyant que son amant ne s'occupait jamais d'elle pour deux sous. Il était toujours poigné dans ses ligues de poche, pis ses games de fer, elle en a eu assez. Elle s'est dit, ça va être la fin de mon Jean-Pierre. Ça fait comme Yipolette, elle s'est mis à creuser le gros drummer de l'orchestre Saint-Cypoplette qui jouait soir là pour l'Halloween des campeurs. JP qui picolait avec les gars de l'équipe de Balbonnet. T'as pas vu ce qui se passait quand sa belle est partie dans le petit boisé. Au fond de la campagne, on a entendu un bing bang, bing bang, bang, bing bang, bing bing bang, bang. Dans les broussailles du camping Saint-Germain, dil-dil-dil-dil, là où il tombe des clous depuis au moins une semaine. Tout seul dans sa roulotte, JP trouve ça moins hot, dil-dil-dil-dil, depuis qu'il n'y a plus de nouvelles de celle qui appelait sa belle. Qu'on aurait vu partir d'incognito, dil-dil-dil-dil, dans un station wagon.
Gina, où que tu sois, je t'attendrai, car je t'aime. À toi pour toujours, ton Jean-Pierre.
Le 5 juin 2025 a eu lieu la Marche des Fiertés à Roubaix, une première pour la ville qui n'avait encore jamais organisé un tel événement. Poussée par des organisations LGBT, c'est l'élu à la mairie de Roubaix, Camille de Ruel, qui est à l'initiative de cette marche, en association avec le collectif Kif Kif, l'association J'en suis Géreste et les Césariennes, première association LGBT de Roubaix. Nous avons pu nous rendre à la marche afin de recueillir les ressentis de quelques participants vis-à-vis de cette première édition.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui qu'il y ait cette première Pride à Roubaix, donc qui est un petit peu historique au final?
Bah, moi je trouve que c'est une bonne chose, par contre les circonstances dans lesquelles ça a été organisé, ça laisse à désirer. Ça montre que la lutte elle est dans toutes les classes sociales, elle est dans toutes les dans tous les quartiers, que ce soit populaire ou dans les grandes villes. Il faut casser les mœurs un peu et élargir les mentalités de tout le monde.
Bah, je trouve que c'est quelque chose de normal, on est ouvert. Roubaix c'est pas une ville fermée.
Alors moi j'en ai pensé que pour une première ça allait, qu'il y avait assez de monde quand même, parce que pour Roubaix on pouvait penser que par rapport à la sécurité il y aurait moins de monde, mais ça a été, il y a eu du monde, ils se sont donné les moyens de quand même faire un truc correct.
Du coup, est-ce que vous pensez que ça manquait à Roubaix justement une Pride?
Bah moi je pense que ça manquait en général, ça manque en général dans la Melle, que ce soit Roubaix ou d'autres petites villes, parce qu'on connaît bien évidemment celle de Lille, mais celle des, enfin il y a pas aux alentours, et je trouve que c'est important de démocratiser ça dans toute la Melle.
Est-ce que vous avez eu des appréhensions quant au fait que c'était à Roubaix que la Pride se déroulait?
Un peu, parce que Roubaix c'est vu comme une ville qui craint, mais en fait justement, ça serait, franchement je trouve que ça serait une fierté de montrer que si la Pride se déroule bien, c'est possible de tous s'entendre.
Une marche des fiertés qui n'en serait pas vraiment une sans la présence des drag queens locales qui faisaient partie du cortège.
Alors moi c'est Labala. Donc je suis une drag queen née à Roubaix.
Bonjour, donc moi c'est Lady Cloud. Je suis la créatrice et sponsor du premier concours drag Esmo de Roubaix.
Est-ce que vous pouvez me décrire un peu comment vous êtes habillée aujourd'hui?
Moi du coup je suis dans un look full simili cuir rouge avec du coup un corset, une jupe, un pantalon agrémenté de plein de ceintures, un peu dans un style bondage. Je voulais quelque chose d'un peu fashion dominatrice.
Et moi, j'ai la chance de porter la création de Jules Saumon, une pièce tout en violet que j'ai assortie de plumes de strass, un corset sur mesure. À la mairie, je réserve mon look un peu plus cabaret avec des plumes.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que drag queen roubaisienne qui est la première Pride à Roubaix?
Alors moi, au-delà d'être une drag queen, je suis un enfant né à Roubaix, j'ai fait mes études ici au collège, etc. J'ai vécu le harcèlement dans cette ville et pour moi, c'est une manière de donner de la visibilité à la communauté queer. Voilà, de faire évoluer les mentalités et montrer que nous, en tant que personnes queer, on est plus que, pardonnez-moi l'expression, mais genre des folasses qui se trémoussent sur un char. Mais voilà, on est des histoires, des vies, des cultures, etc. Et voilà, on veut juste exister avec notre art, avec notre, nos façons de faire famille, etc., notre amour. Et montrer voilà, qu'on existe à Roubaix, qu'on existe partout tout simplement.
Moi, pour moi ça a beaucoup de sens parce que j'ai 44 ans. Il y a 20 ans je me battais pour nos droits dans la rue, notamment le mariage pour tous. J'ai vécu à Roubaix 17 ans. Je suis le référent LGBT de l'école où je travaille. Ça avait un vrai sens d'être présent ce soir.
À titre personnel, c'est vraiment une revanche, tu vois, sur ce que j'ai pu vivre, ce que les jeunes roubaisiens peuvent encore vivre malheureusement dans les collèges et les lycées. C'est surtout important de montrer qu'à Roubaix, on est là, on existe, on est queer. Et il y a des artistes qui peuvent très bien être nés d'ici, quoi.
Nous sommes toujours en train de parler de la première marche des fiertés à Roubaix s'étant déroulée le 5 juin 2025. Malgré la pluie, le cortège s'est mis en route au départ de la gare Jean Lebas jusqu'à la mairie de Roubaix, réunissant près de 300 personnes selon la Voix du Nord. Cependant, plusieurs critiques ont été émises et revendiquées par des participants et syndicats présents au cours de la marche.
Quand tu as su que ça se déroulait à Roubaix, quelle a été ta réaction ?
Bah, au début, moi j'étais super contente et enthousiaste, je pense qu'on l'était tous, à l'idée de faire la première Pride à Roubaix. Ça veut dire quand même que la Pride s'étend, qu'on en a de plus en plus. Mais ouais, c'est quand on a vu les prises de position un peu douteuses de la mairie de Roubaix, du MoDem, qu'on s'est dit, bon, est-ce que c'était un hasard ou est-ce que c'était des intentions islamophobes? Certains ne savaient pas trop s'il fallait venir ou pas.
Moi j'étais quand même content qu'il y ait une Pride à Roubaix. J'avoue, au début je voulais pas venir, parce qu'il y avait de la récupération et je trouve des biais racistes dans l'organisation de cette Pride.
C'est-à-dire ?
Dans le sens où on est à Roubaix, on sait quand même que c'est quand même une population qui est assez populaire et assez racisée avec une religion, etc. Et que je trouvais que c'était dénoué de sens de ne pas politiser la Pride, dans le sens où on va pas dans les quartiers populaires, où on invisibilise certaines personnes. Et je veux dire, on passe de la gare à la Grand Place, qui est un quartier en pleine gentrification, un quartier bien bourgeois, bien blanc, qu'on dise les termes. Et que du coup, j'ai l'impression que c'était une récupération de la droite. De toute façon, c'est pas, je pense. Et c'est bizarre de le faire le jour de l'Aïd, à 20h, un jeudi, en passant dans les quartiers où ces personnes sont invisibilisées. Et voilà.
Et pourquoi du coup, au final, tu t'es dit, je vais venir?
On a décidé quand même de venir parce que la Pride, ça reste à nous, les LGBT. Ça a toujours été à nous et ça sera toujours à nous, et on refuse de laisser ça aux mains de la droite, du MoDem, d'intentions racistes ou quoi que ce soit.
Bah, je me suis dit que c'est pas parce qu'il y avait une récupération qu'on peut pas venir et donner des slogans qui montrent que la droite elle prendra jamais les prides, parce que je veux dire, la personne qui l'a organisée elle est du MoDem, de la majorité présidentielle, où on a des députés qui sont clairement homophobes, accusés d'agression sexuelle, de viol, etc. Et donc et puis il y a même un cortège de lutte qui a été organisé pour démontrer le biais des récupérations et le biais raciste par la Pride, enfin par la personne qui l'a organisé du coup.
Le fait que ça a été organisé pas seulement par la mairie de Roubaix, mais aussi en association avec des associations LGBT comme J'en suis, j'y reste, le collectif Kif Kif, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait, on va dire, racheter un petit peu cette Pride?
Oui, quand même un peu. Après, ça reste quand même des organisations plutôt marquées dans les luttes LGBT et moins sur d'autres bords, comme des bords antiracistes, anticapitalistes, voilà. Après, il y a des gens dans ces assos qui ont aussi ces positions-là, mais ces positions-là, en tant qu'associations, sont moins présentes, je trouve, que d'autres associations LGBT qui vont se vouloir intersectionnelles, anticapitalistes, antiracistes, féministes.
Des critiques bien présentes et revendiquées, mais également nuancées par d'autres avis.
Nous en fait on a participé aux réunions, enfin moi j'en ai fait une d'organisation, et les gens qu'on a rencontrés, ils étaient bienveillants, etc. Ils étaient là pour justement donner de la visibilité à la communauté queer. Après, je comprends totalement qu'on n'ait pas envie que des personnes qui ont plutôt l'habitude de nous redescendre reprennent nos combats pour des raisons un peu obscures avec des biais racistes, etc. Je suis d'accord. En fait, je pense qu'il y a un consensus à faire. Là, à Roubaix, c'était important pour moi d'être là. Après, je suis d'accord je ne suis pas d'accord avec tout ce que les personnes qui ont pu organiser, enfin voilà, avec tous les points de vue plutôt des personnes qui ont pu organiser. Mais voilà, moi, je suis là pour la communauté, pour ce moment fédérateur et empli de lutte, etc.
Ouais, moi, je partage mon avis parce qu'on assistait à la même réunion. Et c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait cette envie-là justement de faire avancer les mœurs, que ce soit dans les médias ou au sein même de la ville, hein, avec tout ce qui peut se passer. Donc nous on est là, on montre qu'on existe, on revendique notre existence, et le reste, enfin, ce soir je mets le reste de côté, je profite, on est là. Moi j'ai demandé une Pride, j'avais été à la mairie en demandant une Pride à Roubaix. Donc c'est vrai que comme je dis, je l'ai eu, maintenant je suis là, on fait la fête. Et puis faut pas oublier que les Prides c'est surtout politique avant tout. On est là pour revendiquer des droits, nos existences qui sont mises en danger, donc on verra bien ce que ça donnera par la suite.
J'ai lu les critiques, j'ai tout lu. Ce qui est important, et je pense qu'il faut vraiment noter ça, c'est qu'il y a une Pride. Ok, il y a des raisons derrière, peut-être, des raisons politiques, mais il y a eu le courage d'organiser quelque chose à Roubaix.
Pour clôturer cette marche, un drag show a eu lieu au sein de la mairie de Roubaix, offrant un spectacle de plumes et de paillettes aux spectateurs. À l'issue du spectacle, nous avons pu recueillir le sentiment de l'élu ayant organisé la marche, Camille de Ruyel.
Et je pense que c'était ce qu'on voulait, en effet, que ça soit la fête, que ça soit un moment de joie. Et les moments aussi, parce que je sais qu'il y a eu des incompréhensions en marge de cette marche.
Comme lesquelles?
Par exemple, il y avait des groupes qui disaient qu'il y avait une récupération politique, etc. Et on a pu discuter aussi avec certains pour expliquer aussi que, certes, la mairie avait été à l'initiative du mouvement. Oui, la mairie a été à l'initiative, mais que c'est les associations qui ont porté le projet et qui ont tout porté, vraiment, et qui ont tout porté, qui ont porté l'organisation de la marche, le spectacle, c'est également les assos. C'est les drag shows, c'est voilà. Et c'était vraiment les assos qui ont tout porté.
Il y avait notamment le fait que les municipales sont dans un an, et donc c'est pour ça qu'on parlait de récupération politique.
Si vous voulez, moi j'ai vu une porte qui s'est ouverte, et je l'ai prise. Je l'ai prise, et que c'est un risque électoralement. Je vais vous dire, électoralement c'est un risque. Et juste sur la date du soir, c'était vraiment par rapport à l'agenda de la ville, en fait, de trouver une date de dispo, et qui dérange pas trop, parce qu'en fait le soir, à partir de 20h, la circulation bloquée, ça va, en fait. Parce que si on la bloque un samedi après-midi, pour l'acceptation sociale, ça aurait peut-être été compliqué. Donc on a fait ce choix-là. Mais voilà, l'année prochaine, y aura moins de couacs. Voilà.
Ouais, parce qu'il y avait aussi le fait que c'était l'Aïd en ce moment. Donc il y avait un truc de « Ah, est-ce que ça exclut pas un peu les queers musulmans ?»
Tout à fait. La République respecte toutes les religions, et c'est important de le dire. Et c'est important aussi que la ville appartienne à tous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
C'est ainsi que cette première marche historique et symbolique se termine dans la ville de Roubaix. Une journée qui nous rappelle que la fierté ne se limite pas à une marche, elle se vit et se revendique chaque jour et partout.
Un reportage de Aurore Henny pour Radio Boomerang.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
sur le comptoir et l'autre levé. Il demande s'il vous plaît un Ricard. C'est comme ça tous les soirs après une dure journée. Moitié sous trois quarts, il ne veut pas rentrer. Retrouver ses moutards et sa femme au foyer. Elle dans ses mouchoirs et eux dans leurs cahiers. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Sa petite vise la vie comme ça. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Ce mec-là se pète bien toi. Une main sur le comptoir et l'autre à raconter. Toujours les mêmes histoires, à rire ou à pleurer. C'est comme ça tous les soirs après une dure journée. Après 15 Ricard, ça sert à quoi de rentrer. Retrouver son dîner que c'est à lui de réchauffer. Au milieu des cahiers, des mouchoirs fatigués. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Sa petite vise, la vie comme ça. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Ce mec-là, c'est peut-être bien toi. Une main sur le comptoir et l'autre fatigué. Il bafouille, je voudrais un Ricard. C'est comme ça tous les soirs après une dure journée. Souhait pas aux trois quarts, comment il va rentrer. Réveiller ses moutards en gueulant sur le palier. Parce qu'il est dans le noir et qu'il trouve pas ses clés. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Sa petite vise la vie comme ça. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Ce mec-là c'est peut-être bien toi. Sur le trottoir et l'autre sur la chaussée. Il est raide, il est tard, ça vaut plus le coup de rentrer. Il rentrera demain soir après sa dure journée. Moitié sous trois quarts, il a le temps d'y penser. Mais pour se faire pardonner, il ira acheter chez le marchand du quartier deux mouchoirs, trois cahiers. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Sa petite vise, la vie comme ça. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Ce mec-là, c'est peut-être bien toi. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. Sa petite vise, la vie comme ça. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'on dit qu'il est. C'est comme ça qu'il restera.
Secret Garden and the Dusty Man, c'est un groupe de blues du Valenciennois qui a sorti le 20 juin dernier son nouvel EP Keep Looking Up, une belle occasion de fêter leurs 10 ans de carrière. Sarah, alias Secret Garden, et Emmerich, the Dusty Man, nous parlent de ce disque et de l'évolution de leur duo.
Alors on s'est connus donc, il y a 10 ans déjà maintenant, quand on était dans le même établissement parce qu'on est prof aussi à côté tous les deux. Et on s'est rendu compte qu'on faisait de la musique tous les deux. Donc, Amérique, il m'a proposé de passer chez lui pour improviser sur du blues. Donc, j'ai travaillé un peu les morceaux en amont. Je me suis pointée chez lui. On a commencé à improviser, à taper un peu le bœuf. Et puis là, il s'est dit « Ok, bah, en fait, finalement, on va pas juste improviser comme ça tous les deux. On va monter un vrai projet parce que ce serait dommage de rater une occasion pareille. » Et puis voilà, ça fait 10 ans.
Bon, j'avoue que j'avais pas que la musique en tête quand je l'ai invité à la maison.
Une rencontre donc pas uniquement musicale, mais côté musique, elle s'est faite autour du blues, et pas n'importe quel blues.
Un groupe qui a sa propre patte, celle du blues and roots. Alors, c'est vrai que le blues, il a ses racines, il a son origine, mais vous, c'est un blues un petit peu différent, expliquez-nous.
Ben justement, c'est le blues qui est plus proche des racines. C'est le blues qui arrive plutôt du Delta, donc le Delta du Mississippi, pas loin de Memphis, un petit peu plus au sud de Memphis. C'est pour ça qu'on a appelé ça à la base le Blues and Roots. Maintenant, on s'est rendu compte que ce terme perdait un peu les gens. Donc quand on parle de Delta Blues, parfois ça parle un peu plus. Et c'est compliqué parce qu'on mélange vraiment beaucoup de styles. Il y a une bonne dose de rock. On n'est absolument pas dans la reproduction fidèle d'un blues traditionnel, mais on s'inspire fortement de cette vision-là du blues avec une guitare, plutôt des guitares slide, des guitares dans des encordages un petit peu plus particuliers, une énergie qui est vraiment un son qui est plus sale aussi et quelque chose qui est beaucoup plus brut de décoffrage, alors que quand on remonte un peu plus vers le nord, quand on va partir vers Chicago, là on va avoir un blues qui va se s'urbaniser, qui va devenir un peu plus précis, un peu plus classe au fur et à mesure qu'on va monter vers le nord.
D'ailleurs, je crois que vous êtes allé récemment sur les terres du Delta Blues.
Tout à fait.
Est-ce qu'on a le droit d'en savoir un peu plus? Alors, non pas sur tous les détails de ce voyage qui était quand même perso, mais qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur les terres de cette musique qu'on admire et qu'on a envie de jouer au plus grand nombre en proposant ses propres compos?
C'est impressionnant. En fait, sur le coup, on n'avait pas l'impression que c'était réel. On est arrivé un mardi soir à 23h. On est sorti et en fait, il y avait des groupes qui jouaient dans quasiment tous les bars, donc on était à la Nouvelle-Orléans au début. Et qu'est-ce que ça jouait, hein. Oh, ils étaient exceptionnels, hein.
Ah ouais, c'est un truc de fou. Moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le culte qu'il y a autour de la musique, qui n'existe pas en France, clairement, hein, même si on aime la musique, mais c'est vraiment à un autre niveau. Il y a un des endroits où on est allé, qui est Clarksdale, qui est la capitale du Delta Blues. C'est une région qui est très très pauvre. Ils ont que ça pour eux, le blues, c'est leur tour Eiffel pour nous, quoi. Donc il y a vraiment un véritable culte pour la musique en général, et dans ces endroits-là, pour cette musique en particulier. Et ça, quand on arrive, nous, en tant que musicien de blues, c'est quelque chose qui est vraiment très 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 marquant. Moi, ça m'a retourné les tripes du début à la fin.
Ouais, justement, quand on fait un voyage comme celui-là, qui finalement est entre guillemets un pèlerinage, est-ce qu'on revient boosté ou est-ce qu'au contraire on revient en se sentant vraiment tout petit par rapport à, justement, tu dis, cette pratique de la musique, ce côté cultuel quasiment de la musique?
Les deux.
Ouais, un peu les deux, ouais, je suis d'accord.
Ça booste énormément parce que, effectivement, on rencontre plein de musiciens qui joue de fou, et puis ça semble naturel. On a vu des gens, Memphis, on a vu une sorte de petite cour où il y avait une scène. À un moment, le gars qui servait les boissons, il s'est levé, il a été chanté, il a mis la baffe à tout le monde, il est reparti servir ses boissons. Le gars qui faisait les entrées, il s'est levé, il a été chanté, il a mis sa baffe à tout le monde, il a été refaire les entrées. Enfin, il y a cet aspect là mais en même temps, il y a aussi des gens qui jouent complètement approximativement, et on se dit en fait on pourrait jouer, ça dénoterait pas complètement. Donc il y a ces deux aspects là en fait qui moi m'a marqué aussi, de se dire c'est une bonne baffe, mais en même temps ça donne envie d'y aller pour de vrai, d'aller y faire nos propres concerts.
Ah, c'est ça, la prochaine fois qu'on y va, l'objectif c'est de pouvoir y jouer. Ce serait vraiment le top.
Et on croise évidemment les doigts pour que ça puisse se faire. Est-ce que ce voyage vous a inspiré? Parce que forcément, quand vous êtes parti, l'EP il était déjà en cours de finalisation, il n'y a pas de nouvelles choses qui sont rajoutées, mais peut-être qu'il y a des carnets de notes qui se sont remplis pour de prochaines choses.
Ouais, on a déjà écrit un morceau qui s'appelle Mississippi, donc forcément, comme tu viens de le dire, il n'est pas sur l'EP, vu que l'EP était déjà enregistré.
Le 20 juin est donc sorti Keep Looking Up, nouvel EP du duo blues valenciennois Secret Garden and the Dusty Man. Un EP que l'on peut bien évidemment se procurer en version numérique, mais aussi, et c'est à souligner, en version physique.
Oui, sur notre site aussi, il est en vente en ligne. Il sera en vente en ligne à partir du 20. On peut déjà le précommander, en fait. On a un Bandcamp sur lequel on peut gérer toutes les commandes. On peut l'acheter en physique, on peut l'acheter en dématérialisé.
Et donc notre site, c'est sgdm.fr.
Et c'est là-dessus qu'on peut commander le disque. Parce que le physique, c'est bien aussi, hein. On ne sait jamais, hein, sur les plateformes, d'un jour ou l'autre... Ce qu'on a mis de côté, ça peut disparaître, hein. Donc si un jour on oublie de payer notre abonnement pour être sur les plateformes, voilà, vous avez plus le disque. Alors que si vous l'avez en physique, ça vous l'avez pour de bon. Surtout qu'on a quand même un bel objet. On a un super graphiste, hein, Arf One Design, qui travaille avec nous depuis les débuts. Et puis on a Dominique Lemaguerre qui nous a fait une superbe photo. Et ça, on l'a en miniature sur son téléphone, mais quand on l'a en vrai, on l'a un peu plus grand.
Thank you.
Cette EP, 5 titres, nous parle de l'importance de se retrouver, des liens familiaux également, mais pas uniquement. Le titre de l'EP, comme l'une de ses chansons phares, nous parle de l'importance d'être résilient.
On pourrait le traduire finalement par « Garde la tête haute », le titre de cette EP, parce que c'est vraiment ça le message que vous voulez porter à travers ce disque.
Ouais, c'est aussi « Garder le courage ». Il faut savoir que ce morceau-là, on l'a écrit à l'époque où c'était le Covid, donc le confinement, le deuxième ou le troisième confinement, où c'était vraiment la grosse galère pour nous. Et voilà, on a eu l'envie d'écrire ce morceau pour parler de ce qu'on vivait.
Partir sur l'idée aussi, quand on a écrit ce texte, qu'un jour ça irait mieux. Donc c'était ça aussi, de se dire ok d'accord, là en ce moment c'est dur, c'est vrai que les deuxième et troisième confinements moralement ont été très très durs à encaisser, et de se dire un jour on s'en sortira, un jour on se retrouvera, on arrivera à se retrouver tous ensemble, et puis ben maintenant en fait c'est quelque chose qu'on continue à se dire un petit peu tous les jours, parce que garder le courage, on en a besoin. On a l'impression de sortir d'une catastrophe pour enchaîner sur une suivante, et de se dire continuer à se dire un jour ça ira mieux, un jour ça ira mieux. On sait pas quand, mais un jour ça ira mieux. En fait, c'est antinomique, mais on fait un blues feel good. Normalement, justement, le principe même, le nom du blues vient de l'expression avoir un coup de blues. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est ça. On est censé exprimer notre tristesse, et on exprime notre tristesse aussi dans notre musique.
Mais sous forme d'espoir.
Voilà, toujours garder cette idée que toujours garder une porte vers quelque chose de positif dans nos textes, quoi.
Ce nouvel EP a été enregistré en home studio. Sarah et Emric du groupe Secret Garden and the Dustymen nous en disent plus sur les conditions d'enregistrement.
Alors on a tout fait nous-mêmes, on l'a enregistré à la maison puisque on a notre studio, tout est.
On a un peu de matériel.
Voilà, on a un peu de matériel à la maison. On s'est équipé au fur et à mesure. Donc on a fait un enregistrement. Au départ, on a fait
Les parties instrumentales.
Ouais, merci.
Donc on a fait d'abord toutes les parties instrumentales. Non,
on n'a pas enregistré façon live, on a vraiment fait séparément.
Enfin, plus ou moins séparément, on n'a pas fait complètement piste par piste. Vraiment complètement séparé, c'est ce qu'on avait fait pour le premier album.
Perdait un peu le groove en fait, en faisant ça.
Donc je voulais vraiment garder le groove qu'on avait d'un point de vue déjà percussion, parce que moi j'ai la grosse caisse et c'est Sarah qui a ce qu'on appelle la pulse, quoi, donc ce qui remplace la caisse claire, que ce soit avec le washboard, avec les tambourins. Donc il faut vraiment que d'un point de vue percussion on soit en place, et faire vivre ce groove en jouant séparé, c'est pas simple. Donc c'est un aspect
parce
que je voulais garder.
Ça voudrait dire qu'il faudrait enregistrer au clic, au métronome, et on perd le côté groove en faisant ça.
Et puis ensuite, on a enregistré tout ce qui était voix et solo dans un second temps. Ça a pris aussi du temps parce que moi, je me suis formé en même temps au mixage. D'abord avec le single. Le single, c'est celui qui m'a pris le plus de temps à mixer et à masteriser. Et puis ensuite, j'ai développé mes compétences là-dessus pour pouvoir vraiment sortir le son que j'avais en tête, quoi. Donc c'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Puis il y a toujours le souci, quand on fait quelque chose soi-même, de pas avoir de vrai deadline et de se dire finalement il y a ce petit détail là qui me gêne, et donc revenir dessus et sans jamais vraiment sortir de cette spirale. Ça c'est aussi, je pense qu'on aurait pu le sortir beaucoup plus rapidement si on s'était mis vraiment un vrai planning avec une vraie deadline, mais au final c'est un mal pour un bien, parce que le résultat me plaît vraiment. J'ai vraiment réussi à sortir un son, vraiment le son que j'avais dans la tête, quoi. Alors qu'à la base, quand on a attaqué le projet l'année dernière, j'étais quand même pas ultra au point sur ce que c'est qu'un mixage. Donc je suis quand même très content du résultat, quoi.
Alors justement, à quel moment on se dit c'est bon? Parce que on peut toujours se dire c'est pas bon, il y a encore un truc à modifier, il y a encore un truc à corriger. À quel moment on se dit c'est bon?
Jamais.
Est-ce que c'est Sarah qui, à un moment donné, c'est bon, on y va, t'arrêtes, sors un peu de ton bureau?
Non, on se dit, moi je me dis pas, c'est bon. Pour moi, c'est toujours pas bon.
Mais voilà, il y avait toujours quelque chose. À chaque fois qu'on le réécoutait, qu'on modifiait, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et c'est Emric qui, au bout d'un moment, a dit bon, allez, c'est tout là, on arrête de chercher la petite bête, parce qu'à force de trop vouloir le truc parfait, on va perdre le côté. Ça va être trop lisse en fait, quoi. Et c'est pas le but du tout de notre projet. Donc il a dit allez, c'est tout, on arrête. On a déjà quelque chose de très bien. Ça sert à rien de chercher la perfection, donc ça ira, et puis voilà, et il a eu raison au final.
Ouais, parce qu'il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte quand on écoute d'autres albums, c'est que dans les autres albums aussi, il y a des défauts, mais vu qu'on ne les connaît pas, on ne les entend pas. Donc il n'y a que ceux qui font l'album qui les entendent, ces défauts-là. Donc il y a un moment, c'est très compliqué hein, de prendre ce recul par rapport à ce qu'on est en train de faire et de se dire oui, on est en train de se prendre la tête pour quelque chose que personne n'entendra, donc on va peut-être se calmer un petit peu. Puis je me suis rendu compte en plus, avec le recul de l'album précédent, il y a plein de défauts que j'entendais avant et que maintenant je n'entends plus, que j'ai fini par oublier. Donc au bout d'un moment, on va peut-être arrêter de chercher vraiment la petite bête, de chercher la perfection. C'est surtout dû à un manque de confiance en soi. Donc comme un moment, on va se lancer et puis on verra ce que ça donne.
C'est vrai que vu qu'on n'est que deux aussi, on n'a pas quelqu'un qui est extérieur au projet, qui nous a dit quoi faire, quoi changer, etc. Donc il y a aussi le fait qu'on n'avait pas de regard extérieur qui fait que c'était pas évident de se dire allez ok maintenant c'est bon.
Votre son, vous trouvez qu'il a évolué, que la patte des Secret Garden and the Dusty Man s'affine?
Alors s'affine non, j'irais le contraire moi, parce que justement elle se rootsifie, elle se cradifie, elle devient plus brute de décoffrage.
Alors quand je dis s'affine, c'est plutôt au sens vous voyez de plus en plus là où vous voulez aller.
Ouais,
ok,
c'est ça. Alors aussi parce que j'ai développé mon jeu de guitare. J'ai travaillé un jeu de guitare maintenant où j'ai plus besoin de rajouter des instrumentations derrière sur les enregistrements pour remplir l'espace. C'est toujours la même chose aussi, un premier album. Pareil, avec le recul, je me rends compte que si j'avais envie qu'on ait plein d'invités, c'était déjà pour faire profiter les copains, mais c'est aussi toujours la même chose, par un manque un peu de confiance en soi, on veut rajouter, enfin en tout cas moi j'avais envie de rajouter des trucs parce que j'avais pas super confiance en moi là-dessus, et là maintenant j'ai beaucoup plus confiance dans mon jeu de guitare pour pouvoir remplir le truc
remplir l'espace sonore.
Exactement, et beaucoup plus confiance en moi sur le style, sur un truc beaucoup plus brut de décoffrage.
Parce qu'en rajoutant plein d'invités comme on avait pu le faire sur le premier album, ça donne un truc moins roots et du coup c'est moins dans le projet.
Et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose qui ressemble à ça en live aussi.
Keep Looking Up, c'est le nouvel EP de Secret Garden and the Dusty Men. Et pour aller écouter et soutenir ce groupe du Valenciennois, direction les plateformes d'écoute et de téléchargement numérique ou le site internet sgdm.fr. Un sujet de Julien Maille de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille 106,6 FM et sur www.campuslille.com. Let's me a hill ma taf n campus rafil moi jin mi o tsi shir tsi ala kouti wrek sn www.campuslille.com. Un foutu mélange sur les ondes de Radio Campus Lille. La vom khloud rafou ma tafn campus 136.
Je menais la vie tranquille d'un mec normal. Au pied une paire de sandales. Une histoire semblable à toutes les autres. Mais un jour étrange, on vit dans le journal. Ma tête, mon nom, page centrale. Mon histoire, soudain, devint la vôtre. Sans blague, j'étais devenu original. Qu'on me porte, mais j'ai toujours serré les sandales pour danser, pour faire la bombe et pour marcher jusqu'à ma tombe.
après ce que je représentais. On me posait des tas de questions. En mariage, autant d'invitations. Mais le temps, le vent tourne, la page du journal. La photo ne vaut plus que dalle. Les collègues, les vrais, s'en foutent pas mal. Sans blague, je suis redevenu un mec normal. Qu'on me becte, qu'on me jette, qu'on s'en régale. Mais comme je garde les mêmes sandales sous mes pieds, roule le monde. Et dans mon cœur la même blonde. Les joies d'un homme fait au passage. Qu'est-ce que je suis bien dans ces sandales. Pour danser, pour faire la bombe. Et pour fêter chaque seconde. Pour éviter qu'on me confonde. Avec un mec original, je veux danser.
Avec nos potes les Iroquois, on fait des gratins.